il est 20h. Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Pour la première fois et sans doute pas la dernière, nous sommes en direct depuis le studio d'ENS Média. Je suis en compagnie de Maëlys, Pierre et Rémi et je salue Nicolas à la régie. Bonjour à tous sur le plateau.
Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui se seraient déconnectés de l'actualité politique, le mois dernier, voici un bref rappel. Hier avait lieu sur TF1 et RTL le grand débat de la primaire dite de gauche, celle de la Belle Alliance Populaire, qui regroupe le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, le Parti Écologiste et le Front Démocrate. Un débat plutôt apaisé, mais qui a laissé voir des lignes de partage entre les candidats, notamment sur le bilan plus ou moins bien assumé du quinquennat de François Hollande, qui, je le rappelle, a renoncé début décembre à se représenter à sa réélection. Un autre point a suscité le débat, celui du revenu de base ou revenu minimum d'existence défendu par Benoît Hamon et Jean-Luc Benamias, mais rejeté par les autres candidats. À l'autre bout du spectre politique, François Fillon pâtit des inquiétudes que suscitent des points clés de son programme, comme la réforme de la sécurité sociale et la baisse du nombre de fonctionnaires. Les derniers sondages voient Emmanuel Macron à la porte du second tour de l'élection présidentielle et Jean-Luc Mélenchon se positionne en leader de la gauche, loin devant le PS. François Bayrou, quant à lui, laisse encore planer le doute sur son éventuelle candidature. Bref, rien n'est joué. Et je vais tout de suite laisser la parole à Maëlys, qui va nous faire la suite de sa sociologie politique.
Voilà. Avec bonjour. Aujourd'hui. Bonjour Mathias. Donc, coucou tout le monde. Aujourd'hui, un petit peu sociologie politique dans ce monde de brut, histoire d'élever un peu le débat.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Donc, sociologie du militantisme aujourd'hui, avec pour commencer une petite question. À votre avis, quelle est la part estimée de la population française qui est adhérente à un parti?
10%?
Ça se compte en centaines de milliers.
1% contre 21% en Suède ou 10% en Italie. C'est très très peu. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui est: à quoi ressemblent les militants politiques des grands partis français? Donc vous savez, ceux qui font sagement leur petit chèque tous les ans ou ceux qui vont assister au meeting de leur candidat préféré en car et qui se peignent des drapeaux français sur les joues. Donc je suppose que vous êtes toujours demandé, lors de vos insomnies interminables, combien d'électeurs FN avaient le crâne rasé ou tuné leur voiture? Combien de mères de foyer profs de caté étaient encartés chez les Républicains et ferventes supporters fillonistes? Ou encore, combien de profs retraités fans de Michel Onfray Mélenchon comptait-il parmi ses partisans?
C'est vrai que ça me tracasse pendant les nuits de pleine lune.
Bon, je vais un peu toucher vos espoirs. Tout simplement parce que, faute de chiffres accessibles, la sociologie n'en sait rien, ou du moins n'en a que des idées grossières, et il est difficile de dresser un portrait type nécessairement fictif et caricatural de l'adhérent d'un parti. Donc, et oui les copains, il est dur de fonder scientifiquement tous ces stéréotypes auxquels on croit dur comme fer. Donc le premier problème du sociologue, en fait, c'est que, tadadadam, le nombre d'adhérents et de militants est un secret jalousement gardé par les partis, qui ne sont pas obligés de les publier et qui tendent un peu beaucoup à les surestimer à la hausse. Donc en fait, c'est un peu comme quand on organise une manif, plus on a de troupes à revendiquer, mieux c'est. Et ainsi, il n'est pas rare que l'on passe du simple au double entre le nombre de participants aux consultations internes d'un parti et le nombre d'adhérents que celui-ci revendique. Et on compte volontiers dans le lot tous les adhérents qui, je cite, n'ont pas leur cotisation à jour. Bref, plus on ratisse large, mieux c'est. Donc bon, pour faire une sociologie infaillible du militantisme, il faudrait affirmer texto 45% des militants socialistes sont des femmes, par exemple. Et ça, concrètement, on ne peut pas. Donc du coup, les sociologues doivent ruser en distribuant des questionnaires lors des grands événements partisans à plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui ne répondent pas forcément avec de potentiels biais de sélection. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une variable sociale cachée qui va les inciter à répondre ou pas, quoi. Donc les chiffres du militantisme sont à manier avec précaution et sous plein de conditions. Donc là, je m'appuie en fait sur 4 enquêtes assez anciennes que je vais utiliser pour développer mon argumentation. Et je ne vais pas les citer direct, je vais en citer les grandes lignes en fait. Et si Mathias est bien gentil, elles seront référencées en bas de la page de l'émission. Voilà.
Très bien, on fera ça. N'est-ce pas Rémi ?
Bien sûr, évidemment, toujours, je veille.
Donc je ne vais pas détailler leur dispositif d'enquête, mais je vais faire quelques raccourcis radiophoniques pour avoir quelques grandes idées des militants des grands partis. Donc on va aller de gauche à droite, on va s'intéresser d'abord aux militants du PCF qui ont été radiographiés en 1997 par François Platon et Jean Rangé. On va ensuite s'intéresser à ceux du PS en 98 qui ont été analysés par Henri Rey, Françoise Subillot et Colette Ismal, à ceux de l'UMP en 2004 qui ont été étudiés par Florence Ejol et enfin à ceux de l'UDF au début des années 2000 qui ont été étudiés par Julien Fretel. Donc face à la bande des quatre, le grand absent, c'est qui selon vous ?
Le Front National.
Le Front National. Donc en fait, j'ai pas trouvé d'enquête sociologique intéressante du profil des militants dans leur ensemble du Front National. Mais si vous en connaissez, je suis preneuse. Donc que nous apprennent ces enquêtes qui commencent à dater mais qui sont néanmoins très parlantes. Donc commençons par le sexe des militants. Donc d'un point de vue général, en fait, à chaque fois, peu importe le parti, on constate une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. Donc 68% des hommes parmi les répondants UMP, 72% parmi les répondants du PS. Au PCF, avec seulement 60% d'hommes contre 40% de femmes, c'est le parti le plus paritaire des quatre que l'on étudie. Donc est-ce que vous avez une petite explication sociologique de ce fait ?
Non, pas forcément.
Bah, on peut réfléchir en termes de sphère publique, sphère privée, les femmes qui ont moins l'habitude de prendre la parole en public ou de s'engager dans des débats publics. Enfin, tout simplement. Après, voilà,
c'est tout
ce
qu'on leur demande. Hein.
C'est tout ce que... Rémi Cerda. En ce qui concerne l'âge, on constate également une sous-représentation des jeunes de moins de 30 ans, avec 5% au PS, 20% à l'UMP. Donc, c'est un chiffre un peu grossi ici parce que l'enquêtrice a rencontré beaucoup de jeunes UMP lors de son enquête. 10% au PCF. Donc on remarque par ailleurs en outre de cette sous-représentation des jeunes, on a une surreprésentation des âges moyens. Donc les âges moyens en sociologie, c'est entre 31 et 60 ans, avec un léger vieillissement néanmoins. Donc ils sont 55% parmi les répondants du PS et 47% à l'UMP. Donc est-ce que vous avez des petites explications de ce fait-là ? Pourquoi est-ce que les âges moyens sont surreprésentés parmi les...
Je sais pas s'il y a beaucoup de retraités déjà, c'est qu'ils ont le temps.
Ouais, peut-être. Ou alors, quand on est retraité, on s'engage peut-être un peu moins, on se retire de la vie publique, ouais. Et on se concentre sur la
sphère privée. Peut-être par tradition, par...
Voilà, et donc il y a à la fois, on dit qu'il y a à la fois un effet d'âge avec un cycle de vie, puisque quand on est jeune, on n'a pas encore forcément d'opinions politiques qui sont bien, voilà, quand on est vieux en bas. Et ensuite, on a peut-être un effet de génération, parce que peut-être que nos parents ou nos grands-parents étaient plus socialisés à s'encarter dans des grandes organisations, etc. Troisième remarque, enfin, on s'aperçoit d'une représentation des catégories sociales et moyennes, sociales moyennes et supérieures et d'une sous-représentation des ouvriers et des employés parmi ces partis. Donc, dans l'ensemble, les militants étudiés tendent à avoir un niveau de diplôme bien plus élevé que la moyenne du niveau de diplôme des Français. Donc, on a deux tiers des militants du PS ou de l'UDF qui ont plus d'un bac, en fait, qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Et on a les trois quarts des militants UMP qui ont un niveau de diplôme supérieur au bac. Alors qu'en France, c'est 45% des Français qui sont au moins bacheliers, en fait, donc qui sont diplômés du supérieur. Donc au PS, parmi les militants interrogés, on rencontre seulement 13% d'employés, contre 21% dans le reste de la population, et 5% d'ouvriers, alors qu'ils sont 26% dans la population française en 1998, à l'époque de l'enquête. On remarque aussi que la part des professions moyennes et supérieures va croissante. À l'UMP, c'est encore pire, on a 2% d'ouvriers contre 43% de cadres et professions intellectuelles supérieures, qui sont en réalité 8% dans l'ensemble de la population française. À l'UDF, on a un tout petit mieux avec 30% de cadres et 9% d'ouvriers. Et c'est le PCF en fait qui se distingue des trois autres ici avec cette enquête de 97 que je vous ai citée, puisque c'est le parti le plus ancré populairement avec 31% d'adhérents communistes qui sont ouvriers et 33% d'employés. Donc néanmoins, même au PCF, en fait, on remarque que dans le temps, leur part ne cesse de décroître au profit des professions et des cadres et professions intellectuelles supérieures, notamment dans les instances dirigeantes du parti. Donc aujourd'hui, 20 ans après ces enquêtes, avec le développement du FN, qui recrute de plus en plus dans les milieux populaires, la donne a certainement changé et il faut nuancer ces chiffres. Donc est-ce que vous avez des petites pistes d'explication pour ce fait ?
Bah, si on le lit déjà aux chiffres de l'abstention, on remarque déjà que l'abstention est beaucoup plus forte dans les milieux populaires.
Voilà.
Et donc du coup, c'est une sorte d'excroissance du mouvement abstentionniste.
Mais derrière, il y a peut-être aussi une espèce de variable cachée qui est l'inégale répartition pour un intérêt politique, un intérêt pour la politique légitime dans les classes populaires. Et aussi le fait que les gens dans les classes populaires sont peut-être moins autorisés à prendre la parole en public pour revendiquer des causes. Voilà.
Et aussi peut-être... les classes populaires ont moins le temps de s'investir vraiment dans un parti, alors que les cadres aussi ont plus le temps de faire aussi, ça comme voilà, un loisir à côté.
Et moins d'argent à gaspiller dans les caisses du PS ou des Républicains.
Peut-être. Mais c'est aussi peut-être capital social aussi, avoir des entretiens des relations sociales, etc., qui ne sont pas les mêmes sur le mieux. Alors, et dernière petite partie. Là, on a quand même des différences qui sont assez marquées entre ces quatre parties. Donc, on a des différences notables avec un PS, par exemple, qui va recruter plus massivement dans le secteur public, avec 59% des militants qui travaillent dans le public, alors que l'UMP ne recrute principalement dans le secteur privé, avec 62% des adhérents UMP qui viennent du secteur privé. La part des indépendants est également deux fois plus importante à l'UMP qu'au PS, avec 26% contre 13%. Donc les indépendants, c'est tout ce qui est exploitants agricoles, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Et enfin, à l'UMP, les employés sont relativement plus nombreux qu'au PS, fait un peu curieux. On a 12% contre 5%. Mais pour autant, en fait, cela ne signifie pas qu'ils ont un ancrage plus populaire de l'UMP, parce qu'en fait, quand on s'intéresse au profil de ces employés-là, ils sont relativement en déclassement par rapport à leur famille et ils viennent d'un milieu relativement aisé, en fait, qui n'est dans l'espace social. Donc, est-ce que vous avez un petit début d'explication pour ce dernier fait, le public versus le privé, ou ça reflète les idées ou les intérêts des militants. Et on n'a pas aussi les mêmes valeurs, les mêmes grandes valeurs d'un côté comme de l'autre, l'entrepreneuriat versus l'État, quoi. Donc, dernier point enfin concernant la pratique religieuse. On a 35% des adhérents UMP qui peuvent être qualifiés de catholiques pratiquants,
non,
alors qu'ils ne sont que 12% au PS. Et au contraire, ceux qui se disent sans religion sont 10% à l'UMP contre 47% au PS. Et par contre, les centristes de l'UDF sont en grande partie catholiques, avec 60% des adhérents qui se déclarent catholiques pratiquants. Donc ça, c'est un fait assez central. Les centristes sont très catholiques, presque plus catholiques que les républicains. Donc est-ce que vous avez un petit début d'explication, ça, la religion et la politique ? Le social au bouffe curé et le...
Bah, pour l'UDF, c'est assez normal dans le sens où c'est la démocratie chrétienne, donc c'est,
oui, aussi,
ça voilà, se comprend à ce niveau-là. Bon, après, à gauche, oui, enfin, le mouvement, voilà, les mouvements anticléricaux, historiquement, ça se comprend.
Voilà, c'est plausible comme explication. Donc, pour résumer, si l'on conclut à la truelle en faisant fi de ces enquêtes qui ont... De l'écart de 15 ans qui nous sépare de ces enquêtes. On a un républicain type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, salarié du privé, plutôt catholique non pratiquant. Un socialiste type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, fonctionnaire et sans religion. Un centriste type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles moyennes ou supérieures, catholique pratiquant. Et enfin un communiste, homme d'âge moyen plus susceptible d'être d'origine populaire que les autres. Voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc nos préjugés sont en partie confortés, je ne sais pas pour les vôtres. Mais au moins c'est un peu plus scientifique et on a un début de réponse. Et Mathias, tu as un début de réponse pour tes crises insomnies lors des nuits de pleine lune.
Tout à fait, merci beaucoup Maëlys. Et on notera par ailleurs que le nombre d'adhérents au parti politique, donc tu l'as dit, a évolué. Et c'est aussi un argument de campagne.
Aussi.
Je pense à Emmanuel Macron qui revendique je ne sais pas combien d'adhérents au mouvement En Marche. Sauf qu'il oublie de dire que c'est une adhésion de principe. C'est une adhésion qui n'est pas militante puisque c'est une adhésion où on ne paye pas pour rejoindre le mouvement. Donc on peut afficher des chiffres mirobolants.
C'est le but, c'est comme les manifestations. Et surtout, personne ne veut divulguer le nombre exact, en fait.
Et aussi voilà. Asselineau avec l'UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias.
Oui, le parti qui monte, mais dont on n'entend pas parler puisqu'il fait toujours 2% quand il arrive à présenter des candidats. Et c'est surtout intéressant parce qu'après, ça rejoint aussi la question de quand on regarde la sociologie de l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr.
Puisque, notamment à l'Assemblée nationale, enfin, c'est pire au Sénat. Je ne sais pas combien il y a de députés issus de milieux ouvriers.
Je sais pas. J'ai plus les chiffres en tête.
Mais non, mais c'est extrêmement peu.
Enfin, oui, c'est peu. Ça ne correspond pas du tout à la structure, la structuration de la population.
Parce que oui, je crois que si on fait un archétype du député, beaucoup viennent de la fonction publique, généralement haute fonction publique, quelques-uns de l'entreprise, mais quand même assez peu. Et finalement, toujours un homme blanc d'âge moyen.
Mais même là, le militantisme, on se rend compte qu'il est extrêmement élitiste. Hein.
Voilà, donc c'est pour vous faire réfléchir sur votre possible encartage futur. Tout de suite, on quitte la sociologie pour aller du côté de la fiction, et de la fiction télévisuelle, si je ne me trompe pas.
Exactement, oui, la série.
Avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
J'allais commencer ma chronique par « L'autre jour, en allumant la télé, mais soyons modernes. L'autre jour, affalé dans mon lit avec une tasse de thé à la main, mon ordi sur les genoux et Netflix ouvert, ou bien VLC pour lire mes dizaines de séries empruntées, je suis tombé sur House of Cards. Ni une ni deux, j'ai regardé d'une traite, en un peu moins de 144 heures, les 22 heures d'épisodes des saisons 3 et 4. » Et je peux vous dire qu'après 52 épisodes, je suis toujours aussi à fond dans cette série, encore plus maintenant d'ailleurs. Les parallèles avec le monde actuel sont très amusantes, intelligentes et parfois glaçantes. Les acteurs sont au top, la réalisation... Bref, voilà. Je ne suis pas là pour vous raconter mes passionnantes soirées rivées à mon écran d'ordinateur plongé dans une série, mais plutôt pour vous parler d'un petit univers merveilleux, car aujourd'hui, deux de mes passions se croisent, les séries et la politique. Alors, je me tourne vers vous pour vous poser cette simple question. Combien de séries politiques pouvez-vous me citer ?
The West Wing.
Game of Thrones, ça compte. C'est politique.
Borgen.
Il n'y avait pas la. Comment ça s'appelait la Scandale.
Oui, Scandale.
En effet, oui.
Quoi d'autre
Je m'attendais à quand même beaucoup plus d'émulation. Par exemple, House of Cards, la version américaine, la version anglaise. Après, In the Loop. Enfin, pardon, la version Grey's série.
Anatomy.
Chut, tais-toi, Rémi. VIP,
Parks and Recreation.
Exactement, Designated Survivor. Bref, il y en a plein. Je pense que vous n'allez pas me contredire.
Pas beaucoup de françaises d'ailleurs.
Baron Noir, Marseille.
Mais Marseille, c'était nul.
Plus belle la vie.
Mais non, mais on n'est pas bon aux séries politiques en France.
Ah, ça dépend. Regarde par exemple Borgia.
Non, mais arrête avec Plus belle la vie.
Bon, je pense du coup que quand même, vous n'allez pas me contredire si je vous dis qu'il y a quand même beaucoup de séries politiques qui existent en ce moment. Que ce soit des séries françaises, américaines, danoises, britanniques, italiennes, coréennes, russes, etc. Je pense que les séries politiques sont quand même un dénominateur commun à toutes les productions télévisuelles mondiales, avec le sitcom ou la série policière, par exemple. Et puis, c'est devenu tellement large comme adjectif politique quand on le colle à série qu'on peut y inclure Game of Thrones, Homeland et même, selon Wikipédia, 24 heures chrono. Alors, qu'est-ce qu'une série politique ? Wikipédia nous informe très vite sur la question, parce que oui, comme tout chroniqueur sérieux, j'ai fait mes recherches le jour même sur Wikipédia. Enfin bref, accrochez-vous à vos sièges. Une série politique, c'est une série ayant comme trame de fond une lutte pour le pouvoir politique. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop déstabilisé avec cette révélation incroyable. Plus sérieusement, la politique peut prendre plusieurs aspects. De la participation à l'activité politique, c'est-à-dire la gestion d'un État ou même d'une ville, à la lutte plus humaine pour atteindre une position particulière au sein d'un appareil administratif ou faire prévaloir son organisation par-dessus une autre. C'est comme ça, par exemple, que Braco peut revêtir des aspects politiques. Sinon, on pourrait aussi dire qu'une série politique, c'est une série qui a un discours politique. Et ça, c'est une notion très importante pour les séries en général. Bien sûr, certaines afficheront un discours politisé plus ouvertement que d'autres. Les productions de David Simon, dont on parle dans D'étoiles plein les yeux, premier épisode de l'année, portent à chaque fois un regard sociologique sur une question tout en dirigeant l'œil des spectateurs sur certains aspects. Alors que Game of Thrones s'en bat les steaks d'un quelconque discours politique. Le but, c'est d'être le roi et de survivre. Point. À la limite, Daenerys est une humaniste féministe. Mais de 1, combattre le patriarcat avec des pouvoirs magiques en lui cramant la tronche, c'est un discours un peu réducteur pour la question de la lutte des femmes. Et de 2, le côté abolition de l'esclavage apparaît maladroitement au tout début et disparaît tellement vite que bon, presque on a l'impression que avoir un programme politique à Westeros, ça vous mènera droit à la mairie de Pau. Mais pourtant, quand on regarde Game of Thrones, on se fait une certaine idée des luttes politiques, de ses règles et de ses méandres. Dominique Moïssi, dans son ouvrage « La géopolitique des séries », esquisse une analyse rapide, mais que je trouve assez pertinente, de ce que les séries actuelles révèlent de nous-mêmes. On est passé dans un monde où la politique est partout, et de plus en plus visible par tous. Mais surtout, elle défaille sur de nombreux points. On perd confiance en elle, on devient cynique. Les séries l'ont bien compris et misent là-dessus. C'est fini la belle époque de West Wing ou Yes Prime Minister où la politique était quelque chose de beau, de gentil, de rigolo parfois. Maintenant, on veut de la passion folle, des ambitions démesurées ou un réalisme à couper le souffle qui nous montre une politique qui rame, qui n'arrive pas à faire face à toutes les vagues de crise et de coups fourrés qui lui tombent dessus. Même Borgen, qui quand même est une série relativement optimiste avec une femme première ministre, nous montre que sa vie est vraiment éprouvante et que peut-être ça n'en vaut pas la peine. Le second arc narratif qui entoure Birgit Nyborg est son divorce et l'incompatibilité de la vie politique avec une vie que l'on juge normale. À l'exact opposé, niveau ambiance, on trouve House of Cards, où là c'est d'une noirceur pire que l'humour de Rémy. On suit un personnage qui est prêt à tout pour le pouvoir. Fini l'image du gentil politicien qui reste un être humain dépassé par le poids de sa charge. Frank Underwood est un anti-héros de la plus pure espèce qui évolue dans un milieu de mégalodons. Sauf qu'on perd le sens des réalités, et hormis l'ego de Frank qui n'aime pas perdre, on perd rapidement de vue ce que signifie vraiment le pouvoir à ses yeux. C'est comme ça dans Show Me a Hero. Le personnage de Nick Wasisco ne fait que s'enfoncer de plus en plus tragiquement, parce que son ambition l'a perdu. Il veut juste avoir une place sans jamais vraiment comprendre ce qu'il a fait ou les conséquences de ses décisions.
Mais c'est du Shakespeare, ça !
Eh ben oui ! Depuis Macbeth ou même Le Roi Lear, les séries politiques n'ont rien inventé du tout. Elles cherchent avant tout à avoir de l'audimat, ça, il faut le dire. Du coup, il faut montrer ce que les gens veulent voir. Il faut les tenir en haleine, les choquer. C'est pour ça qu'on a des séries de plus en plus cash et que toutes les séries politiques semblent s'assombrir. La philosophie hobbesienne domine le discours audiovisuel sur la politique. Mais d'un autre côté, il nous montre de plus en plus l'aspect humain de cette politique. Il s'éloigne de Foucault pour se rapprocher de Wright Mills. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir en s'appuyant sur leur position dans les institutions. S'ils sortent de ces institutions, ils ne sont plus rien. Du coup, qu'est-ce que nous montrent les séries politiques ? D'un côté, un extrême. À savoir la violence et la conflictualité entre les individus inhérentes à la politique. Le fait que ceux-ci sont prêts à tout sans prendre en considération l'autre. Pardon. De l'autre côté, une critique. À savoir que la politique, c'est une affaire d'êtres humains. Donc avec leurs limites, leur hubris, mais surtout, n'importe qui peut observer la politique, la comprendre et y participer. Après, là, c'est surtout pour des séries sérieuses. Et comme vous le savez bien en écoutant notre émission, la politique, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux. Voire au contraire, même quand on regarde l'humour de Valls qui veut retirer le 49-3 ou Le Pen qui se retrouve enfermé dehors devant la Trump Tower. En vrai, quand on regarde les séries politiques humoristiques comme Yes Prime Minister, Parks and Recreation ou VIP, on peut facilement les trouver fades par rapport à la réalité. Ou voir leur thème s'éloigner de la politique pour rester drôle. On a déjà Trump, Boris Johnson, Filoche, etc. Pour nous faire rire, pourquoi perdre son temps à regarder une série pour rire de la politique ? Après tout, on pourrait écouter les chroniques de Rémy. Enfin bref, si on regarde une série politique, c'est surtout pour voir ce qu'on ne peut pas voir d'ordinaire. The Thick of It est une exception parce que c'est le bordel de derrière les fagots, celui qu'on ne voit jamais dans les conférences de presse ou les discours officiels qui rend tout absolument drôlissime. Mais surtout, on veut voir des gens horribles diriger les puissances mondiales. On veut voir des gens bien peinés à faire changer les choses. On veut voir les méchants gagner, les personnages principaux tuer leurs rivaux de leurs propres mains. On veut des trahisons à vous briser le cœur, des coups dans le dos qui vous prennent par surprise comme dans un mauvais porno. On veut voir de l'argent déborder des poches des gens en qui on a confiance, de la corruption. On veut voir des politiciens qui n'ont aucun intérêt pour les gens comme nous, pour d'autres qu'eux-mêmes. Enfin bref, on veut voir dans ces séries tout ce qu'on ne voit pas dans le monde réel, non ?
Ah. On veut peut-être se conforter aussi dans l'idée que la politique, c'est un peu tout pourri.
Exactement.
Et que c'est pas pour nous, et que c'est loin, et que c'est de la fiction, et qu'on regarde à la télé ce à quoi on n'a pas accès, parce que généralement quand on regarde une série, c'est qu'on n'est pas dans la politique.
Du coup, en fait, en nous conseillant toutes ces séries, tu nous détournes un petit peu plus de notre rôle de citoyen concerné, Pierre.
Et oui, je vous tire vers le monde merveilleux des séries qui vont vous bouffer votre temps à longueur de journée.
Est-ce qu'il y aurait pas aussi un effet cathartique, peut-être ?
Oui.
Je sais pas, c'est toi le littéraire.
Mais oui, la tête que tu as fait quand tu as dit le mot littéraire.
Il y a une forme d'effet cathartique, en effet. On voit des personnages sombrer dans la politique en se disant « Ouh, nous, ça nous arrivera pas. » Et du coup, c'est un peu genre « Prends garde. »
Bon, sur ces bonnes paroles, je vais tout de suite me faire chroniqueur, puisque moi aussi je suis un acteur protéiforme shakespearien. Et tout de suite, voilà, c'est Mathias vous parle.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, on va jouer aux devinettes. Si je vous dis régime semi-présidentiel 1958 et Charles de Gaulle, vous me dites...
Cinquième République ?
Bingo, la Cinquième République. Quel talent. Notre chère Cinquième République. Et j'ai envie de dire, la Cinquième République est morte. Vive la Cinquième République. Notre chère Cinquième République, enfant de Charles de Gaulle et de Michel Debré, née du chaos de la Quatrième République empêtrée dans les conflits coloniaux et l'instabilité d'un système parlementaire moribond, depuis 58 ans, elle a tenu bon, la Cinquième, et si elle tenait encore un peu, elle pourrait battre le record de longévité détenu par sa lointaine cousine, la septuagénaire Troisième République. Mais... la cinquième ne fait pas l'unanimité, loin de là. Déjà, Mitterrand parlait de l'exercice du pouvoir par De Gaulle comme d'un coup d'État permanent. Car il est vrai que notre constitution pourrait ressembler à l'expression du narcissisme sans limite d'un chef de guerre qui n'avait pas vraiment apprécié qu'on ne lui taille pas un régime politique sur mesure dès 1945. Bref, car notre chère République a des airs de... monarchie présidentielle, qui puise sans doute son origine dans le mythe français du sauveur charismatique censé arriver comme le Messie à échéance régulière pour faire renaître la grandeur de la France, comme avec Napoléon et De Gaulle. Il suffit de voir à quel point l'image de Mitterrand, tonton, plane encore dans nos consciences, même pour ceux qui n'ont pas vécu sous ses 14 ans de règne présidence. De surcroît, le renoncement de François Hollande en décembre a suscité des réactions paniquées, car en effet, c'est une première sous la Ve République qu'un président choisisse de ne pas se représenter. J'ai même vu qu'on avait titré sur l'abdication de Hollande. Oui, abdication, comme un roi ou un pape. Car même si un président ne peut se représenter qu'une fois à l'élection présidentielle depuis 2008, on attend quand même qu'il veuille s'attacher à sa fonction. On aime les hommes politiques qui s'accrochent à l'infime particule de pouvoir possible. De Gaulle a claqué la porte en 1946 pour revenir triomphalement 12 ans plus tard. Mitterrand est entré en politique en 1947 et s'est présenté en tout 4 fois à l'élection présidentielle comme Jacques Chirac. Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing ont perdu, puis ont essayé de revenir avec le succès qu'on leur connaît. Bref, étrangement, on ne retient pas Jospin, qui a délibérément décidé d'arrêter la politique après sa défaite de 2002. On ne prend pas pour modèle sur ceux qui considèrent que la politique n'est pas un sacerdoce qu'on tient à vie. Bref, je reviens à notre chère Ve République. Que lui reproche-t-on ? Une surpersonnalisation du pouvoir d'abord, avec la primauté donnée au pouvoir exécutif. Surtout que le passage du septennat au quinquennat a perturbé la fonction première du président, qui se confond bien souvent avec le Premier ministre, sans l'être. Et c'est l'élection présidentielle qui concentre l'attention de tous, et cette émission en est aussi la preuve. Et l'élection législative, pourtant au cœur du processus démocratique, est reléguée à la seconde place, pour entériner le vote qui a eu lieu un mois avant. Jamais une élection législative n'a désavoué, voire même un peu contrarié, le résultat de l'élection présidentielle. La majorité présidentielle sort toujours largement vainqueur. Puisqu'on parle des législatives, on reproche aussi à notre Constitution sa capacité à favoriser les gros partis, grâce au scrutin uninominal à deux tours, qui exclut de fait de la représentation nationale un certain nombre de tendances politiques. Je terminerai avec le Sénat. Le Sénat dont on doute de plus en plus de l'utilité, si tant est qu'on n'ait jamais cru qu'il en avait une. Petit quiz.
Si, je vais revenir dessus tout à l'heure.
Petit quiz. Savez-vous combien d'années le Sénat a eu une majorité de gauche en 58 ans ?
Ah, c'est depuis la Ve République ?
Sur l'ensemble de la Ve République, combien d'années le Sénat a-t-il été de gauche ?
je dirais.
Tu veux dire de gauche
Avec une majorité de gauche.
Assise sur la moitié gauche de l'hémicycle.
C'est ça, voilà.
C'est déjà les élections sénatoriales, je vais faire tous les...
Je crois que c'est tous les 3 ans, mais c'est un renouvellement par tiers.
Oui, par tiers, c'est ça. Alors, moi, je dirais moins de 10 ans. 4-5 ans.
4
ans, ouais.
0.
Eh bien, c'est Rémi qui est le plus proche. 3 ans, de 2011 à 2014.
Oula.
Et c'est tout. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus, sur la question de la représentativité, sachant que même sous les présidences de Mitterrand et sous la gouvernance de Jospin, on avait un Sénat à droite, voire au centre. À gauche, c'était Bell, qui était président du Sénat de 2011 à 2014, et c'est tout. Bref. Personnel politique vieillissant, siège verrouillé, mode d'élection indirect et un peu ésotérique, le Sénat n'a pas bonne presse et honnêtement, je ne sais pas s'il nous manquerait s'il venait à disparaître. Mais comme nous sommes en campagne présidentielle, la campagne par excellence, certains candidats ont décidé d'en finir avec la 5e pour passer en toute originalité à la 6e République. Et c'est surtout à gauche que germe cette idée, car la droite, qui se croit encore l'héritière de Gaulle, semble considérer que la Constitution est intouchable. Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg en ont fait leur cheval de bataille. Tous les deux veulent réformer le Sénat. Mélenchon veut tout bonnement le supprimer pour le transformer en Assemblée populaire. Et Montebourg souhaiterait y intégrer une dose de tirage au sort, d'une centaine de citoyens tirés au sort, comme ce qui peut se faire notamment en Irlande. Les candidats, donc, on retrouve généralement de grandes idées comme la limite du cumul des mandats dans le temps, la limitation du pouvoir présidentiel, notamment en ce qui concerne les nominations, la responsabilité des ministres devant l'Assemblée nationale, ça c'est dans le programme d'Arnaud Montebourg, ce qui voudrait dire qu'un ministre serait responsable devant l'Assemblée et qu'il pourrait donc être destitué par l'Assemblée nationale sans pour autant destituer l'intégralité du gouvernement. Suppression du 49-3, dont on a beaucoup parlé. Élection législative en partie à la proportionnelle. Voici les quelques propositions qu'on peut trouver pour repenser la Constitution. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Je terminerai sur un point. On parle beaucoup du clivage gauche-droite pour prouver son existence ou son obsolescence. Je crois qu'il est encore tenace et qu'il se voit dans le rapport à l'exercice du pouvoir. La droite, FN compris, a toujours mis l'accent sur une sorte de lien de légitimation qui unit l'élu à l'électeur, dans la lignée de la vision napoléonienne du pouvoir. Ce dernier n'a de compte à rendre qu'au corps électoral et surtout pas aux niveaux intermédiaires. François Fillon veut présider par décret au début de son mandat, considérant que son élection vaudrait légitimation des mesures qu'il compte adopter. Marine Le Pen veut gouverner à coup de référendum, considérant que seul le peuple, réel ou fantasmé, doit avoir son mot à dire car ses représentants sont par principe suspects et coupables. C'est bien le rapport à la légitimité démocratique qui scinde le spectre politique. La droite croit à la légitimité personnelle, issue du suffrage universel, dans le rapport personnel au peuple, considéré comme un groupe cohérent. La gauche, ce qu'il en reste, miserait sur la représentation du peuple et la capacité graduelle à prendre en charge une fonction politique et donc à se politiser lui-même dans une ascension politique, qu'elle soit directe ou indirecte. Je terminerai en disant que Mitterrand avait su se couronner roi des Français et que Hollande s'est laissé prendre au jeu sans s'y être préparé et que le jeu a sans doute gagné. Avez-vous des commentaires sur...
C'est pas facile de dire merci beaucoup Mathias pour ta chronique.
Non, je ne vais pas me remercier moi-même, je n'ai pas ce degré d'ego comme toi Rémi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur notre chère 5e République ou même des idées pour une 6e République démocratique, renouvelée
Le président par hologramme.
Comment?
Non, je fais référence aux nouvelles foudroyantes qui nous arrivent du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui a trouvé le moyen de se dédoubler.
Ah oui, il sera d'ailleurs à Lyon en février, début février, c'est ça?
Avec son hologramme.
Macron à Lyon le 4, Mélenchon à Lyon le 5, Marine Le Pen le 4 et le 5.
Ah oui. Parce qu'elle aussi, elle se dédouble.
Non, mais elle est là pendant 2 jours.
Bon, bah, ne sortez pas de Lyon à ce moment-là, alors.
dans deux semaines, tu fais une oraison funèbre de la Ve République.
C'est ça.
J'ai cru que ça allait partir comme ça au départ, ça allait être...
Mais c'est vrai que la Ve République est morte, vive la Ve République. On est toujours dans le côté monarchique de...
Mais oui.
Ça fait longtemps déjà qu'on propose une Sixième République. Ségolène Royal, déjà en 2008, proposait.
Non, mais je crois qu'on propose une Sixième République depuis que la Ve République est née. Mais...
Oui, bon.
Mais le problème, c'est ce qu'on met derrière. Qu'est-ce qu'on met derrière une Sixième République? C'est juste pour faire du rafistolage d'un truc qui ne marche plus.
C'est quoi déjà le bouquin de Mitterrand en 65?
C'est le coup d'État permanent.
Coup d'État permanent. À méditer.
Mais je me souviens d'un manuel d'histoire où on avait d'ailleurs la couverture du coup d'État permanent de Mitterrand, et ensuite une caricature de Mitterrand après qu'il ait été élu président de la République, où c'était Mitterrand en Louis XIV avec une perruque de rose. Pour montrer que Mitterrand avait su se donner la prestance d'un roi élu, en fait.
C'est beau.
C'est beau. Tu voulais dire quelque chose, Pierre?
Ouais, est-ce qu'on serait obligé de l'appeler Sixième République?
Bah, Cinquième bis, ça fait un peu moche.
Mais on pourrait pas faire autre chose, genre Nouvelle République ou...
Mettre un nom de fleur, comme dans notre pays, la République des Chardons.
Voilà, par exemple.
Disons qu'il y en a eu une, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième.
On peut l'appeler la République Populaire.
Voilà. Il y a un peu dans les noms, quoi.
T'as pas parlé de démocratique ou populaire de France. T'as pas parlé de populisme dans ton... Enfin, sur le rapport des...
Oui, c'était sous-entendu, parce que le rapport qu'on entretient à ce qu'on considère être le peuple, si tant est que le peuple puisse se comprendre comme quelque chose d'uni et un groupe cohérent, c'est du populisme, parce que... Et enfin, ça pose la question du référendum, que certains prennent comme le plus haut niveau de démocratie possible. Ça doit être nuancé, je pense.
Il faudrait déjà que les gens sachent de quoi ça parle, le référendum. Ce qui est assez peu le cas quand on regarde les derniers référendums qu'il y a eu.
Je ne ferai pas un procès d'intention aux votants, dans le sens où, en disant, de toute façon, ils n'ont rien compris, c'est des bœufs. Et... C'est vrai que...
C'est pas ça non plus, c'est juste que le référendum, c'est aussi une manière de comment on le présente. Par exemple, oui. Autour du Brexit, il y a eu des mois et des mois et des mois de négociations au sein du Parlement britannique pour savoir quelle allait être la question, quel mot on allait mettre dans la question du référendum.
Oui, mais après, c'est vrai que quand on regarde aussi l'histoire du référendum, c'est Napoléon III et le plébiscite. Donc, ça pose aussi la question... Je vous pose une question, à la condition que vous dites oui.
Ça pose aussi toute la question de l'opinion publique, en fait, de ses manipulations, comment elle est influencée et tout ça. Enfin.
Puis le fait qu'on soit aussi peu. Qu'on ait aussi peu confiance dans les instances de représentation. Pourquoi élire une assemblée si on considère que l'assemblée n'est pas capable de voter?
D'ailleurs, même le gouvernement considère qu'elle n'est pas capable de voter, et c'est écrit dans la constitution de ta fameuse cinquième.
Oui, après, le 49-3, c'est un autre...
Ah, mais je ne parlais pas du 49-3.
Ah oui.
Enfin, si.
Oui, mais parce qu'en soi, quand il y a 49-3, il y a aussi en face la possibilité de censurer l'intégralité du gouvernement. Ce qui, quand même, peut renverser la balance.
Sauf que c'est une arme beaucoup trop forte pour qu'elle soit utilisée par le Parlement, du coup. Enfin, du coup, c'est...
À partir du moment où
c'est
on
pas équilibré.
Si on considère qu'il n'y a pas... de majorité pour voter un texte, mais qu'il n'y a pas, à l'inverse, de majorité pour destituer un gouvernement, ça met un peu la balance dans... Enfin bref, c'est l'arsenal qui permet de constituer la Ve République comme un régime, bon, on dit semi-présidentiel, mais qui est quand même très présidentiel et très incarné. Mais depuis la Révolution française, on parle de la passion française pour la monarchie, et je crois qu'on n'en a pas fini avec ça. Bon, je me tais... Et je vais laisser...
transhistorienne pour la monarchie.
Non, nous sommes très démocratiques. Nos différents CA en témoignent. Donc je laisse la parole à Rémi, et avec cette question qui me turlupine. Comment vas-tu, Rémi?
Ah, mais je vais très très bien, Mathias. J'ai passé de super vacances. Je suis d'attaque et je viens ici, le cœur sur la main, chers auditeurs, pour vous faire mes vœux pour cette année 2017.
Dans tous politiques sur Transistor. Mes voeux, oui, chers auditeurs, parce que après tout, pourquoi n'auriez-vous pas aussi droit au mien après avoir reçu ceux de l'agent comptable sur tous.ens@ens-lyon.fr. Merci Patrick, et je te retourne les miens. Oui, donc, je souhaite... plein de trucs à plein de gens. Je souhaite à tous mes amis cancéreux qu'on leur retire leur tumeur, bien sûr, et ce afin de résoudre les problèmes de sous-alimentation grandissant des classes populaires qui en ont marre de n'avaler que des couleuvres. Je souhaite à mes amis syriens qu'on leur retire la vie au lieu de leur arracher simplement tous les membres de leur corps et de leur famille, c'est pas cool. Je souhaite à mes très chers amis frontistes qu'on leur retire. Alors d'abord la nationalité française, parce que ça les ferait bien chier. Et puis leurs fesses pour qu'ils ne puissent pas s'asseoir dans les fauteuils parlementaires que nos votes bêlants leur offriront, pour qu'ils y fraudent le fisc et y caillassent les Arabes avec des policiers déjà surmenés par les injustices à commettre sur les manifestants ultra-gauchistes de merde, bordel. Et puis à tous les autres. Je souhaite qu'on leur retire Manuel Valls. Oui, qu'on vous retire, chers éditeurs, Manuel Valls, comme lui-même s'est retiré sa dignité quelque part. Alors, parce que c'est une grande nouvelle et que vous connaissez tous déjà, Manu le rougeoyant a ramassé tout son courage et toutes ses veines autour de lui et est parti en croisade. Vous le savez tous, Manuel est en guerre contre le 49-3. Tremble, Constitution ! Ah là, voilà l'ordre nouveau de ce monde. Non mais attendez, on rêve quoi. À quand Bachar contre les abattoirs, Poutine contre les requins, Trump contre rien, moi contre les mails et la gauche contre la droite. On rêve les amis. Enfin bon, après avoir été 3 ans durant la massue que tentait de nous introduire tout ce que la France fait d'antidémocratie et de gens en costume et dont les dernières traces liquéfiées du socialisme étaient le lubrifiant, après avoir été le monsieur tout rouge qui essayait d'imiter la couleur du code du travail pourtant rendu un peu marronasse par les usages qu'on en faisait, et puis du nez des gens qui se plaignaient des 10 usages, Manu, le pauvre Manu, était devenu tellement rouge qu'il en était devenu bleu, un bleu qui virait un petit peu sur le marine à certains moments, et c'était légèrement emmerdant. Mais tout va bien mieux parce que Manu est redevenu tout rose. C'est fantastique.
Et comme un bébé.
Comme un bébé, mais j'y viens. On comprend enfin ce qui posait problème, ce qui constipait le pauvre Manu qui poussait, et ça ne venait pas. Et c'est terrible. Parce que quand ça dure 4 ans. Enfin bon, le 49-3, voilà, c'est bon, Manu a accouché. Bon, il y avait de la matière depuis le temps, hein. Et il s'est bien englué dedans à la télé un peu partout. C'est absolument ridicule, tout rose dans une grosse masse molle avec une grosse tête pas belle et pas d'idée dedans. Voilà. La dernière fois que le soleil de mes jours a avorté d'un de mes cadeaux, le fœtus dans le placenta ressemblait à un premier ministre en plus petit. À part ça, Manu, justement, était à la télé hier avec ses potes et il faisait sa petite soirée de rentrée lui aussi comme maître transistor, et le 31 il pouvait pas parce qu'il brûlait la voiture d'Arnaud Montebourg. Bon. Eh bien, savez-vous que pour une fois, Touche pas à mon poste n'était pas le programme le plus idiot à regarder à la télé. Non, Hanouna immédiatement a tenté un procès à TF1.
3,8 millions de téléspectateurs.
Oui, tu te rends compte?
Dont moi.
C'est ça. Quand on enlève les quelques dizaines de milliers de journalistes qui étaient payés pour le regarder, on comprend vraiment pas ce que foutent ces gens au lieu d'aller pointer au chômage pour avoir du boulot. Bordel, au lieu de toucher toutes ces aides qu'on leur file depuis que ces salopards de socialistes sont au gouvernement. Alors voilà, pour continuer mes voeux, j'étais allé dans ce splendide débat télévisé pour y piocher la liste des gens qu'il faudrait également vous retirer, chers auditeurs. Mais là, en fait, je vous épargne les noms parce que ça se fera tout seul, puisqu'après, on les envoie mourir dans une élection présidentielle sans même de programme politique pour les protéger contre le froid qui les assaillira, faute de bulletin de vote pour s'en faire un manteau. Je termine avec un dernier nom pour la forme. Il s'appelle Gérard. Il touche quelques milliers d'euros comme sénateur, quelques milliers comme maire de Lyon, une retraite de l'éducation nationale, quelques milliers supplémentaires d'indemnités parlementaires. Tout ça s'élève à un petit peu plus de 20 000 euros par mois. Mais on lui a retiré 1 000 euros pour absentéisme au fameux Sénat. Rendez-vous compte, pauvre Gérard. Et c'est absolument dramatique parce que qui plus est, le 115 ne répond pas. Alors, vous le savez, c'est l'hiver. il fait froid. Gérard a essayé de demander à l'homme qui a installé sa tente entre Monod et Descartes s'il lui restait un coin de matelas, mais il n'y avait plus que le coin pipi. Gérard est désespéré. Comment voulez-vous qu'il fasse ? La mairie de Lyon refuse d'ouvrir ses gymnases pour l'accueillir. Les associations sont débordées. Gérard est obligé de faire les poubelles pour essayer de trouver des restes pour se nourrir et puis peut-être nourrir ce qu'il lui reste de famille. Non, j'arrête, c'est à vomir. Ce discours pitoyable vis-à-vis de tous ces profiteurs qui choisissent de ne pas travailler est absolument scandaleux. Je propose qu'eux aussi, on nous les retire.
Mais il a un bon ami, Gérard.
Ah oui, il a un super ami, ouais, mais il marche trop vite.
Bon, c'est l'heure de nous quitter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe de Tous Politiques, ainsi que Nicolas à la régie et ENS Média qui a rendu ce direct possible. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et en attendant, la politique, c'est pas tout, mais nous sommes tous politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.